Les hommes aux semelles devant. Une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, les Chicanos. Il y a bien longtemps, bien avant que les Européens ne découvrent et ne colonisent l'Amérique, les Aztèques vivaient au pays des hérons bleutés, sur une terre qu'ils appelaient Aztlan. Un jour, les dieux leur ordonnèrent de partir pour fonder une nouvelle cité, à l'endroit même où ils verraient un aigle posé sur un cactus. Sous la conduite du dieu Colibri, les Aztèques se mirent donc en route, et après une longue période d'errance, ils s'installèrent à l'emplacement de l'actuelle ville de Mexico. Aztlan, elle, n'a jamais pu être localisée avec précision, mais on la situe généralement quelque part dans le sud-ouest des États-Unis. Avec le temps, elle est devenue le lieu originel mythique des Aztèques, une nation utopique que chérissent les Chicanos, ces Mexicains-Américains qui s'escriment à rappeler que dans ce pays, ils ne sont pas étrangers, mais autochtones. Avec l'américaniste Ada Savin, suivons les Chicanos dans leur pérégrination mythique et leur reconquête poétique des terres aztèques.
Je suis le prince des Mayas. Je suis l'aigle et le serpent de la civilisation aztèque. Je suis le maître de toute la terre. Cela fait plus de 2 siècles que nous, les Aztecas, nous prédisons l'arrivée des hommes blancs. Aujourd'hui, la prophétie se réalise. Le capitaine Hernán Cortés et ses hommes atteignent la côte de ce que nous appelons de nos jours le Mexique. Village après village, ils violent nos femmes, font des prisonniers et entrent triomphalement dans notre cité d'or, Mexico, la ville la plus avancée au monde. Ils nous expliquent que pour devenir espagnol, il faut être baptisé et prendre un nom chrétien. Désormais, je suis Joaquín, venu de très loin et arrivé nulle part, perdu dans un monde de confusion, attrapé dans le tourbillon d'une société de gringos.
Avant l'annexion d'une grande partie du Mexique par les États-Unis au milieu du 19e siècle, les Mexicains ont subi une autre colonisation, celle des Espagnols. En 1521, Cortés, le fameux Cortés, avec une poignée d'hommes sans femmes, arrive donc au Mexique et en quelques jours, enfin j'exagère un peu, ils arrivent à conquérir l'empire aztèque conduit par Moctezuma. Aussi à l'aide d'une femme, chercher la femme toujours, c'est la fameuse Malinche, on l'appelle, c'était une jeune indienne, belle apparemment, très douée pour les langues, qui devient la maîtresse de Cortés, qui est en fait la mère des Mexicains, puisqu'elle a un fils avec Cortés, s'appelle Diego, c'est le premier Mexicain, donc issu de père espagnol et de mère indienne, parce que les Mexicains en fait sont d'origine indienne, et là, en effet, les Mexicains deviennent un peuple métis à plusieurs degrés. Et jusqu'en 1821, la colonisation espagnole dure donc pendant 3 siècles, voire un peu plus. En 1821, le Mexique devient indépendant, grand pays, énorme pays. Il y a un autre grand pays au nord, au nord-est, qui lorgne ce grand pays, le Mexique. Et nous sommes donc en 1848, quand les États-Unis sont en pleine expansion vers l'ouest, et sous l'influence de l'idéologie nommée « destinée manifeste », comme quoi ce serait la destinée manifeste des Américains de conquérir le continent entier afin de civiliser, je mets des guillemets, afin de civiliser les populations non-WASP, non-anglo. Quoi. Et donc, il y a des endroits comme l'Utah, le col Utah, ou enfin l'Oregon, où ils arrivent bien sûr aussi, mais ils lorgnent vers le sud-ouest, parce que le sud-ouest, et cette Californie qui apparaît dans l'histoire comme un pays de cocagne, un pays d'or, un pays magnifique. Aussi l'Arizona, le Nouveau-Mexique, ce sont des endroits avec une autre végétation. C'est un autre monde, c'est un monde paradisiaque qu'ils veulent, les Américains le veulent absolument. Donc, ils prennent comme prétexte contentieux sur la frontière pour déclencher cette guerre sous le président Polk, qui est un nationaliste fervent, chauvin, et ils déclenchent cette guerre en 2 ans, Ils arrivent jusqu'à la capitale, Mexico City, qu'ils ne vont pas annexer puisqu'ils veulent, ils veulent pas s'occuper de beaucoup de Mexicains, de les assimiler. Ils les considèrent d'ailleurs avec beaucoup de mépris, ces Mexicains qui sont des métis. Les Espagnols ne sont pas les grands amis des Américains non plus. Et les Indiens, comme on le sait, encore moins. D'ailleurs, ils le disent, il y a plein de documents qui parlent du fait que oh, les Mexicains, ils ne savent pas se gouverner eux-mêmes. Nous, on vient les aider à se gouverner parce qu'ils ne sont pas capables, ils sont imbéciles, idiots. Il y a des lettres du président et des journalistes qui parlent avec un mépris total de ce pays, de ce gouvernement. Et donc, ils se croient en droit d'annexer toute cette partie. Il n'y a pas que la Californie, il y a Arizona, Nouveau-Mexique, une partie du Colorado, Utah, c'est énorme. C'est presque la moitié du territoire du Mexique qui est annexé du jour au lendemain.
Je suis Joaquín. Je suis Emiliano Zapata. Les villages, les montagnes, les ruisseaux et ces terres sont à nous. Mais en 1850, d'autres hommes blancs, un chariot bâché, viennent sur les anciens territoires de l'Aztlán, notre patrie, aujourd'hui connue sous le nom du Sud-Ouest américain. De nouveaux envahisseurs, de nouveaux conquérants, eux aussi arrivent avec de la poudre à canon et les drapeaux d'une nouvelle nation. Eux aussi sont en croisade. Ces nouveaux barbares blancs signent avec le gouvernement le traité de Guadalupe Hidalgo, qui mentionne que, si nous le voulons, nous pouvons rester et devenir citoyens américains. Sinon, nous devrons partir vers le sud, au Mexique. Mais nous ne sommes pas mexicains. Nous sommes des Chicanos de l'Aztlán. Qu'importe, nous serons citoyens américains, que nous le voulions ou non. Moi, le métis, je dois encore me dissoudre dans la société et disparaître dans la honte.
Cette première génération, en fait, ils n'ont pas immigré, c'est la frontière qui a bougé et ils se trouvent donc du jour au lendemain aux États-Unis et d'ailleurs ils sont américains, mexicains-américains. Et ils peuvent siéger donc dans le Sénat californien, comme c'est le cas de Pablo de la Guerra, qui, quelques années après l'annexion, se rend compte que les droits sont bafoués, que les terres des Mexicains, il y avait des Mexicains très riches, sont prises. Pourquoi? Parce que les Mexicains n'avaient pas toujours les papiers nécessaires. Pour preuve que la terre leur appartenait, c'était une autre culture. Or, les Américains veulent une preuve. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de terre. Ils prennent les terres. On leur promet une éducation bilingue et tous les textes officiels publiés en deux langues. Ça dure pendant quelques années. Après, c'est oublié. Hein, ça se fait plus. Et donc, Pablo de la Guerra de dire, nous sommes maintenant étrangers dans notre propre pays. Ils se sentent comme des étrangers dans leur propre pays. Ils sont dans leur pays, qui n'est plus leur pays, c'est le pays perdu, The Lost Land.
La vida no es la que vivimos. La vida es el honor y el recuerdo. Por eso más vale morir con el pueblo vivo y no vivir con el pueblo muerto.
Vers la fin du 19e siècle, les Californios, ils s'appelaient comme ça, hein, les Mexicains-Américains, les Californios, allaient disparaître s'il n'y avait pas eu la révolution mexicaine en 1910, qui a envoyé la première grande vague vraiment de migration de Mexicains. Donc 1920, 30, c'est aussi la période pendant laquelle ceux qui s'établissent, s'établissent toujours, les Mexicains-Américains, de l'autre côté des voies, des chemins de fer. East Los Angeles, par exemple, c'est une ville à part et d'autres plus petites villes. Tout de suite, les Mexicains se mettent à côté du centre. Il y a une marginalisation voulue et subit aussi, enfin c'est toujours comme ça, des deux côtés. Toujours est-il qu'ils forment ce qu'on appelle les barrios, hein, ou les colonias plus petits, c'est-à-dire les quartiers hispaniques. Ces quartiers hispaniques sont surtout dans cette période-là au Texas et en Californie. Aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup plus jusqu'à Chicago et jusque dans l'Oregon.
La nuit de Noël, en l'an de grâce 1954 de Huitzilopochtli, La nuit est noire, sans lune. 300 Chicanos se sont rassemblés devant l'église catholique romaine de Saint-Basile. 300 enfants du soleil aux yeux marrons sont venus chasser les marchands du temple le plus opulent de Los Angeles. Vivant dans des grandes villas à Beverly Hills, les fidèles disparaissent dans l'église et nous traitent de sauvages. Nous, les bouffeurs de guacamole, nous tenons de petites bougies blanches en guise d'armes et nous chantons sur les accords de Las Posadas. C'est la nuit du miracle. Jamais auparavant, les fils des Aztecas vaincus n'avaient vénéré leur dieu au seuil de la maison du Christ vivant. Mais quand nous essayons d'ouvrir les lourdes portes de l'église, nous découvrons qu'elles sont fermées à clé. On nous exclut une fois de plus. On nous fait signe derrière l'épaisse vitre insonorisée. C'est complet! Alors des larmes silencieuses, les larmes de l'histoire, se mettent à couler sur nos joues.
Par exemple, vous avez des boutiques ou des endroits au Texas, en Californie, où c'est marqué, les Mexicains américains sont priés de ne pas se présenter, de ne pas rentrer, ce qu'on a vu pour les Noirs et pour d'autres populations aux États-Unis. Donc oui, il y a une certaine ségrégation, bien sûr. Le fait aussi que dans les années 60, c'est le mouvement des Noirs américains qui a été le premier, évidemment. Il y a le mouvement des Indiens aussi, des Indiens autochtones, et le mouvement des Chicanos, qui emboîte le pas de ces mouvements des trois groupes qui sont absolument exceptionnels dans la population des États-Unis, parce que les Noirs ne sont pas du tout des immigrés, on sait bien qu'ils ont été forcés. Les Indiens, si quelqu'un n'est pas immigré, c'est bien eux. Et les Mexicains sont des Américains annexés. Donc, ce n'est pas un hasard que ces trois groupes, justement, se distinguent par ces mouvements des années 60. Et en ce qui concerne les Chicanos, leur revendication est surtout identitaire. Ils veulent être reconnus, reconnus comme une communauté qui parle une autre langue, qui a une culture millénaire, plus vieille que celle des États-Unis, des Anglos, hein, qui devrait avoir droit à une éducation bilingue. Et là-dessus, ils vont gagner. En 1968, le gouvernement américain accorde ce qu'on appelle le Bilingual Education Act, l'acte d'éducation bilingue, selon lequel donc les écoles qui ont un certain nombre d'élèves mexicains doivent avoir aussi des cours en espagnol.
Je suis Joaquin. À la maison, mon grand-père disait qu'un homme qui parlait deux langues en valait deux. Pourtant, je me rends compte que je ne parle presque plus jamais en espagnol. Tout à coup, je revois les directeurs du collège nous disant un jour « Boys and girls, j'entends beaucoup trop d'espagnol dans les couloirs ces derniers temps. Je vous rappelle que nous vivons aux États-Unis, donc on parle américain. » Je ne l'avalais pas tout à fait, comme l'eau n'avale pas l'huile. My culture has been raped.
I lengthened the line at the welfare door. Le concept de melting pot est remis en question énormément depuis 10-20 années, dans le sens qu'il n'y a jamais eu vraiment de volonté d'un vrai melting pot aux États-Unis. Melting pot pour les Américains dans les années 20, 30, la grande immigration européenne, c'était en fait se plier finalement à la langue anglaise et se plier au rite américain, c'est-à-dire anglophone, et se fondre dans cette masse. C'est pas préserver chacun son... Voilà. Donc, les Mexicains sont dans une situation ambiguë. C'est une catégorie qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne veulent pas vraiment intégrer, qu'ils veulent aussi, en fait, tenir dans des proportions très basses.
Je suis Joaquin. Cinq siècles que je vis sous les talons des Européens, mais je suis encore ici. Nous avons tout donné à ces étrangers, à ces hordes affamées d'or qui ont changé notre langue, qui ont méprisé notre façon de vivre, qui ont ignoré notre art, notre littérature, notre musique. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, nous nous retournons vers le gouvernement pour demander justice, accès à l'éducation, aux emplois, à la liberté et au bonheur. Et maintenant, la trompette résonne. La musique encourage à la révolution.
Todos los trabajadores, codo a codo con el pan.
We thank and praise God for having us here today. Many people have helped us, and we welcome the help of the civil rights movement and other students.
C'est un mouvement avec deux têtes, je dirais. Il y a une branche agricole, parce que beaucoup de Mexicains américains sont dans l'agriculture, et donc ils ont un leader qui s'appelle César Chavez. Donc ça, c'est une branche. Et l'autre, ce sont des jeunes étudiants surtout, hein, qui est à Los Angeles, tout spécialement, avec Rodolfo Corqui González, entre autres, celui qui a écrit ce poème manifeste de Chicanos, Yo soy Corqui González. Je suis Joaquín. Soy Joaquín. Quiénes somos? Il y a une quête identitaire qui traverse le mouvement Chicanos. Pour moi, c'est le plus important. Le fait qu'ils veulent une visibilité, et ça, ils l'ont eu. Et d'ailleurs, The Wall of Los Angeles, le mur de Los Angeles, hein, c'est pas du tout un mur qui sépare, c'est un mur qui figure l'histoire des Aztèques, après les Aztlan, après les Mexicains américains, les Chicanos, c'est tout à fait figuratif, en couleur extrêmement crue, et c'est une œuvre d'art qui a été exécutée pendant des années. On a rajouté, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, dans d'autres villes où il y a une population hispanique, voire mexicaine-américaine, vous avez cette tendance de constituer du street art, de prendre un pont, un mur, voilà, et d'habitude avec un message ou politique, ou historique, ou féministe, parce qu'il y a un mouvement féministe assez fort.
C'est la pagaille devant le lycée. Sur nos t-shirts, un badge sur lequel est imprimé Front de libération des Chicanos. Des voitures de police noires et blanches déboulent sur le trottoir de l'école. Des grands flics baraqués bondissent hors des voitures, fusils à pompe sur l'épaule. Ils nous ordonnent de dégager, mais personne ne bouge.
Pinches putos! Cabrones marranos! Salaud! Le pouvoir aux Chicanos.
J'ai les larmes aux yeux et j'ai du mal à respirer. Je suis en train d'assister à la naissance d'une nouvelle race des sauvages qui défient le monde en hurlant à tue-tête. Des diables aux yeux marrons. Une génération en route pour la révolution.
Ils ont des concepts comme la raça, hein. Brown power. Ils sont bruns, ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs, ils sont bruns. Hein. Ils sont une race métisse. Parce qu'il y a des Hispaniques qui vont de blanc à presque noir. Hein. Mais bien sûr que foncièrement, c'est une race métisse et c'est quelque chose que les Américains ont du mal à comprendre. Et le terme, c'était la race. Et Aztlan, ce territoire mythique qui en fait couvre le territoire nord et sud de la frontière mexicaine-américaine, c'est le territoire qu'ils ont revendiqué de façon symbolique pendant le mouvement Chicano comme endroit où les Indiens qui seraient venus du nord vers le sud du continent américain se seraient posés à un moment donné. Donc, il n'y a pas du tout de vérification historique possible. Hein. C'était surtout important comme lieu de mémoire, crémation symbolique de leur appartenance à ce territoire.
Je suis Joaquín. Je rallonge la file devant la porte de l'assistance sociale. Je remplis les prisons avec mes crimes. Je pleure des larmes d'angoisse. Dans le pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles, au cœur du barrio, où les rues débordent de poubelles, de bagnoles déglinguées, de mares de boue et de déjections canines, il y a cette plaque. À cet endroit, un bataillon de mormons de la 6e cavalerie de Salt Lake City a vaincu le dernier contingent d'Indiens et de Mexicains dans la guerre opposant le Mexique aux États-Unis d'Amérique en 1848. La plaque trône sur une statue représentant des cavaliers qui repoussent des bandidos et des sauvages à moitié nus. Je crache dessus quand je passe devant.
La langue espagnole était tellement importante. Ils voulaient faire comprendre aux Américains qu'ils ont une autre langue. Nous avons beaucoup d'œuvres, ce sont des poésies ou des romans, où il y a beaucoup de mélange des deux langues, ce qui fait la traduction presque impossible. Enfin, comment on traduit ? C'est, je dirais que la première génération là, de Chicano Movement, ce n'est pas les grands poètes, ne sont pas à ce moment-là. Mais ils ouvrent cette possibilité d'une autre sensibilité, d'une autre langue, quand même sur le territoire américain. C'est dans les années 80-90 jusqu'à ce jour qu'arrivent vraiment des écrivains qui écrivent pour la plupart en anglais, mais c'est un anglais où on sent un substrat d'espagnol. Par exemple, Sandra Cisneros, que c'est une très bonne écrivaine, qui a tout un passage dans une nouvelle où elle dit « faire l'amour en espagnol, c'est tout à fait autre chose que faire l'amour en anglais ». Donc, s'il y a une ouverture, il y a mettre vraiment une autre sensibilité sur la carte littéraire américaine, quelque chose que les Américains ne connaissaient pas, et quelque chose auquel ils semblent être de plus en plus sensibles. Il y a une ouverture, la brèche s'est faite avec le Chicano Movement, mais après, bien sûr, ça s'est développé. Maintenant, ils ont quand même cette voix singulière à l'intérieur des grands États-Unis. Alors, je dirais que les Chicanos et plus largement les Hispaniques aux États-Unis, enfin, je dirais, pour reprendre Carlos Fuentes, il parle de la tropicalisation des États-Unis par les Hispaniques. C'est-à-dire qu'ils apportent les couleurs, la nourriture, la musique, une façon de vivre qui est, en fait, à l'opposé du strict protestantisme américain. Enfin, on caricature un peu, mais quand même, il y a cette fascination quand même. Il y a répulsion, mais aussi fascination des deux côtés de la frontière. Là, il y a quelque chose comme un melting pot, peut-être, qui rapproche enfin le sud du nord. Vous allez dans un endroit comme Los Angeles. Los Angeles, c'est très mexicain. C'est la deuxième plus grande ville mexicaine après Mexico City, c'est clair. East Los Angeles, c'est mexicain. D'ailleurs, c'est ce que les Américains, dans les années 60, 70, 80, n'ont pas aimé. Et ils ont voulu instaurer the English Only Movement. C'est qu'ils rentrent dans East LA et ils n'entendent que des Espagnols. Ils disent, maintenant, c'est moi qui me sens étranger dans mon propre pays. Il faut donc que, dans ces États où il y a plein d'Hispaniques, il faut que l'anglais soit la seule langue utilisée. Or, c'est vrai que dans la Constitution américaine, nulle part n'est écrit que l'anglais est la langue officielle des États-Unis. Ce n'est pas du tout marqué. Donc, pour changer la Constitution américaine, c'est extrêmement difficile. Mais des États comme la Californie ont réussi à passer ce English Only Movement, c'est-à-dire de décréter que la seule langue officielle de l'État et l'anglais. Et d'autres États ont suivi le pas, Arizona, je crois que la Floride aussi. Enfin, cette idée d'imposer la langue anglaise, alors que dans le domaine familial, ils veulent préserver l'espagnol. Si c'est aux États-Unis, si c'est pour aller voir l'autre partie de la famille qui est au Mexique. C'est très proche, vous comprenez, c'est pas traverser un océan comme pour les Européens. Ils sont américains, ils sont à côté, ils prennent un bus. Et ils sont au Mexique, où ils ont une partie de la famille. Donc, ils doivent pouvoir parler avec la famille, avec la grand-mère, etc. Donc, ce qu'ils veulent, en fait, c'est espace public, OK, anglais, espace privé, espagnol.
Mexicano, viva! Español, viva! Latino, viva!
Mexicano, español, latino, hispano, chicano, peu importe comment je m'appelle, j'ai la même apparence, j'ai les mêmes sentiments, je pleure et je chante de la même façon. Les défis sont nombreux, mais mon esprit est fort, ma foi inébranlable, mon sang pur. Je suis Joaquin, I am Joaquin, je suis Joaquin.
I am Joaquin. The odds are great, but my spirit is strong. My faith, unbreakable. My blood is pure. I am Aztec Prince and Christian Christ. I shall endure.
Aujourd'hui, si vous interrogez des gens qui sont dans la rue, ils ne se nomment pas Chicanos, ils se nomment Mexicain-Américain, ils se nomment Américain d'origine mexicaine. Ils peuvent se nommer aussi, et ça c'est assez nouveau, Latinos ou Hispanics. Ça veut dire un groupe, une communauté qui englobe les Cubains, les Portoricains, qui ont certes la même langue, encore qu'il y a des variantes, mais des cultures et des histoires très très différentes, hein. Politiquement aussi très différents. Mais ce qu'on aime plus maintenant, c'est ce regroupement latino qu'on voit. Le mouvement Chicano, ça fait un moment déjà, nous sommes en 2016, voyons, c'est les années 60-70, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je crois que les États-Unis sont maintenant vraiment devant une situation nouvelle où ils ont à l'intérieur une population. Walt Whitman, le grand poète américain, disait déjà au 19e siècle, il ne faut pas négliger les ancêtres hispaniques de notre continent parce qu'ils peuvent apporter une sève et autre chose à notre culture que nous, on n'a pas. Aujourd'hui, je ne pense pas du tout à une reconquista politique, hein, mais plutôt à une reconquête imaginaire, culturelle, artistique, et pas une reconquête donc, mais un mélange, une harmonisation si possible. Peut-être, je crois que je rêve un peu là, hein, mais bon, il faut bien rêver un peu. L'extrême droite mexicaine apparemment demande à ce que les régions où la démographie hispanique est très haute reviennent au Mexique, en parallèle du Texas au 19e siècle. À mon avis, le Mexique ne va jamais demander cela, puisqu'il ne veut pas gâcher ses relations avec les États-Unis, ni avec le Canada, l'ALENA, l'arrangement de l'Amérique du Nord. Et d'autre part, je ne crois pas du tout que les Mexicains-Américains, d'abord, ils ne sont pas que eux, hein, ils sont très nombreux, surtout à Los Angeles, mais je ne crois pas du tout qu'ils seraient d'accord pour revenir au Mexique. Je crois que après tellement d'années, on parle maintenant des décennies et des décennies, d'un siècle plus, les dés sont tombés comme ça, de façon injuste certainement.
Merci à Ada Savin, professeure émérite de civilisation américaine à l'Université de Versailles et qui a publié chez L'Harmattan en 1998 « Les Chicanos aux États-Unis, étrangers dans leur propre pays ». Merci également à David Duran Camacho pour ses lectures librement adaptées de « La révolte des cafards » d'Oscar Zeta Acosta et des poèmes « Ainsi dit le Seigneur » de Tino Villanueva et « Je suis Joaquin » de Rodolfo Corqui González. Les Hommes aux Semelles de Vent est une émission d'Odémilie Judaïque, préparée par Julie Briand, enregistrement Valérie Lavalard, mixage Éric Boisset. Demain dimanche, nous restons encore un peu à la frontière mexico-américaine, sur laquelle butent les migrants clandestins venus de toute l'Amérique latine. Rendez-vous donc demain, dès midi, sur France Culture.
Mi cultura y corazón, tengo mi pedido. camisa con mucho valor. Tengo todita mi gente para la revolución.